Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nina sur Canal B, il est midi 15 sur le 94 FM.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Qui dit qu'on n'a pas de déboire ?
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
Et la rue répond !
Venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, l'émission d'actualité locale et de questions de société sur Canal B. Nous sommes en direct aujourd'hui lundi 22 juin depuis les studios de Canal B à Rennes. Si vous nous écoutez en rediffusion ce mardi matin, eh bien bonne matinée à vous. Il fait chaud dans le Grand Ouest et partout en France et ça ne devrait pas s'améliorer dans les jours qui viennent, je ne vous apprends rien. Elles aussi auront probablement chaud pendant le festival qu'elles organisent début juillet. Léa, dis-nous qui tu vas recevoir pour l'interview du jour.
Salut Nina, je reçois aujourd'hui Lise Libéral et Elsa Rimbaud qui font partie de l'équipe d'organisation du Droogfest. C'est un festival qui aura lieu les 3 et 4 juillet prochains à Aidé-Bazouges. C'est une petite commune à une vingtaine de minutes au nord de Rennes et c'est un festival qui est connu pour avoir été créé pour et par les jeunes.
Et puis en fin d'émission, vous entendrez aussi des jeunes, des élèves de lycée, des Rennais et des Rennaises qui participent à un projet de radio dans leur établissement et qui nous expliquent ce que cela leur a apporté. Ce sera à midi carotte en fin d'émission. D'ici là, restez avec nous sur le 94 FM pour retrouver nos invités dans une poignée de minutes. Mais avant ça, je ne vais pas faire comme s'il y avait une info plus importante aujourd'hui. Il fait chaud, il fera 43 degrés aujourd'hui à 17h et 44 degrés demain à la même heure avec des rafales moyennes prévues à 0 km/h aujourd'hui. La chaleur sur la dalle risque d'être tout simplement mortelle. Le changement climatique, c'est donc ça, des chiffres, des températures, des statistiques. Mais c'est aussi des saisons et des quotidiens qui changent puisque, oh surprise, pas mal d'événements prévus à l'extérieur sont annulés. Qui aurait pu prédire. Et le changement climatique, c'est aussi un sujet qui tourne, qui tourne, qui tourne, mais sans savoir où atterrir. Alors que certains JT tournent en boucle sur quel clim acheter, que diriez-vous plutôt de lire des articles ou de regarder des émissions qui prennent un peu de hauteur sur le sujet ? Vous pouvez pour commencer regarder la très bonne émission Rhinocéros du Média Blast en accès libre sur YouTube. L'épisode d'il y a 2 semaines est savamment intitulé « Canicule, que les pauvres crèvent, les riches s'adapteront ». Cette émission, qui est diffusée toutes les 2 semaines, décrypte le traitement médiatique d'un sujet en particulier. Et cette fois, les deux journalistes nous montrent notamment des éditorialistes en plateau qui sont totalement indifférents au fait que des enfants crèvent de chaud à l'école. Pour ces éditorialistes en question, pas de problème structurel ni de responsabilité politique dans cette canicule. Non, 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 c'est comme ça, il fait chaud et les enfants feraient mieux d'arrêter de se plaindre. Un sujet que vous retrouverez aussi sous sa forme écrite par le média en ligne Reporter, qui titre « Une journée de canicule devant CNews, clim partout, changement climatique nulle part ». Ce même média vous propose aussi un article plus politique au titre suivant « Climat, la France cuit et le gouvernement se félicite ». Dans ce papier, la journaliste nous montre les deux versions d'une même histoire. D'un côté, le gouvernement actuel qui s'auto-congratule de son plan national d'adaptation au changement climatique dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Et d'un autre côté, ce qu'en pense le monde associatif. Un sujet et deux façons de le voir. Allez vous faire votre propre avis sur Reporter. Et si votre truc c'est moins la politique que les faits scientifiques parfois insolites, je vous conseille pour finir la version française du site The Conversation, un site où des chercheurs et des chercheuses à la plume habile vulgarisent leurs recherches sur des thématiques sociétales. En ce moment, vous pouvez lire des articles tout récents sur les conséquences de la chaleur, sur par exemple les poules et leurs œufs. Ils sont moins nombreux, plus petits, plus fragiles évidemment, mais aussi un papier datant de mars 2025 intitulé « Le train survivra-t-il au réchauffement climatique ?». Voilà pour cette petite introduction. J'espère que ces quelques références pourront faire redescendre, si ce n'est la température de votre pièce, au moins la température de votre cerveau.
Stars coming at you. tout donné pour elle. Je me suis baladé dans la ville. J'ai vu quelques séquelles qui ne vont pas rester à vie. Pour l'instant ça va mieux, j'avance genre petit à petit. Mais pour l'instant ça va mieux. Regarde le ciel, il est moins gris. Et puis y'a le temps qui passe et y'a plus les larmes sur le visage. J'en ai fait des rêves de mon corps sans vie sur le rivage. Mais jamais la mort m'a attendu dans les virages. Je peux me regarder dans la glace et enfin aimer mon visage. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'herbe et enfin arrêter de pleurer. Faut dire que la vie est belle depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle car je me suis pas trompé. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'herbe et enfin arrêter de pleurer. Faut dire que la vie est belle depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle car je me suis pas trompé. J'étais qu'un jeune gamin qui voulait s'amuser tout le temps. Puis le temps est passé et j'ai perdu cette insouciance. Mon cerveau est cassé, il va sûrement prendre des vacances. Mon cerveau t'a fané, c'est tes histoires d'adolescente. Je vais remonter si haut, car longue était la descente. Je vais remonter si haut, après cette convalescence. Et plus jamais j'haïrai le jour où de ma naissance. Et plus jamais j'haïrai le jour où de ma naissance. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'herbe et enfin arrêter de pleurer. Faut dire que la vie est belle depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle car je me suis pas trompé. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'herbe et enfin arrêter de pleurer. Faut dire que la vie est belle depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle car je me suis pas trompé. C'était une sacrée course mais on a bien fait d'arrêter. J'ai vu un tas de drapeaux rouges mais je voulais quand même y aller. Je suis sorti du tunnel, je vois le drapeau et d'amis. Je me dis que c'est bien mieux comme ça, d'ailleurs je suis bien mieux comme ça. Et je suis bien mieux sans toi, que ça te plaise ou pas. J'ai fait le tour de la ville et j'ai repensé à mes copains. Ceux qui sont toujours là et qui donnent tout quand moi j'ai rien. Et ça m'a fait du bien, ouais ça m'a fait du bien. Quelle grâce d'être heureux seul, si seul et si serein. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans l'herbe et enfin arrêter de pleurer. Faut dire que la vie est belle depuis que j'ai tout arrêté. Faut dire que la vie est belle car je ne suis pas trompé. Y'a enfin l'été qui revient, je vois le soleil arriver. Je peux m'allonger dans
Enfin l'été qui revient, on peut dire ça comme ça. C'était le morceau Bisummer de Mitty, un artiste qui fait partie de la programmation du festival que nous allons recevoir dans un instant sur le plateau de 3 en 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 3 en 1. Tout de suite, on enchaîne avec l'interview du jour. Léa, tu reçois les organisatrices d'un festival de musique, le Droukfest.
Oui, le Droukfest est un festival de musique qui a lieu depuis 2023 à Aidé-Bazouges, sur les ruines d'un château médiéval. À l'origine de ce festival, trois jeunes femmes, Lise Libéral, Nelsie Nöder et Joséphine Vittoria, âgées alors de 18 ans à l'époque de la première édition en 2023. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lise Libéral, vice-présidente de l'association Les Droucs, et Elsa Rimbaud en charge des partenariats. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors une question pour commencer cette interview. Le Droukfest, le nom, ça a une histoire particulière ?
Alors oui, en fait, le Droukfest, ça s'appelle comme ça parce que Drouk, ça veut dire méchant en breton. Et par chez nous, ça se fait beaucoup, les groupes d'amis, ils ont un nom pour se désigner. Et on voulait trop avoir un nom aussi parce qu'on se disait c'est trop cool. Du coup, on a fait une réunion pour savoir comment on allait s'appeler. Et donc, on a trouvé les Drouk parce que méchant en breton. Et on a fait le Droukfest, du coup.
Cette année, vous programmez des artistes comme Iris 2000, Orion et Dios, le collectif L'Heureuse ou encore Ambre Amélie, pour n'en citer que quelques-uns. Comment est-ce que vous choisissez les artistes qui monteront sur scène lors du Droukfest ?
Alors, on a eu plusieurs systèmes parce qu'en fait, les premières années, on les connaissait tous. C'est nous directement qui sommes allés vers eux. Mais maintenant, c'est par candidature. Donc, on reçoit beaucoup de candidatures, on les épluche une à une et on a certains critères qui font qu'on peut les sélectionner. Avant, on avait beaucoup de critères techniques, notamment parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir trop d'instruments pour les changements de scène. Mais maintenant, on a résolu ça. Donc, on peut. Par exemple, on se concentre beaucoup sur les artistes féminines parce que les premières éditions, en fait, il n'y avait pas d'artistes féminines presque. La seule qu'on avait vraiment, c'était parce que c'était une de nos copines. Mais par chez nous, les filles, elles ne font pas de la musique. C'est vraiment très axé chez les hommes. Et du coup, ça nous tient à cœur forcément d'avoir beaucoup plus de programmés, enfin de femmes programmées. Et sinon, on fait beaucoup aussi en fonction de nos goûts forcément. On est influencé par ça. Mais on essaye de garder une programmation qui est accessible pour beaucoup de gens tout de même.
Vous diriez que la programmation est plutôt éclectique. Quel style de musique on peut écouter au Droukfest ?
Alors, ça dépend toujours chaque année. Parce que là, cette année par exemple, il y a beaucoup de rap, d'électropop et des influences rock aussi.
Cette année, et les autres éditions, c'était la même chose, vous aviez une grande majorité d'artistes qui sortaient leur premier EP. Comment est-ce que vous les dénichez, ces nouveaux artistes ?
Alors, au début, c'est vraiment parce que, du coup, on les connaissait de nos cercles. Et maintenant, en fait, les gens viennent vers nous et nous le disent assez facilement, puisque du coup, ils savent qu'on est potentiellement une première scène. Donc, en fait, c'est vachement de bouche à oreille, finalement. Et même souvent, on envoie aux anciens artistes les nouvelles candidatures pour qu'ils en parlent autour d'eux. Et ça fonctionne pas très, très bien, pardon.
Et cette année, est-ce que vous savez d'où venaient les artistes qui ont candidaté ? Est-ce que c'est des personnes qui vivent seulement en Bretagne ou est-ce que les personnes viennent de plus loin ?
Alors maintenant, ça peut venir de plus loin, puisque la première édition, c'était vraiment que Bretagne. Mais maintenant, on peut avoir du Paris, du Lyon ou du Nantes et aussi. Et c'est vraiment ouvert à toute la France maintenant. Mais par contre, on garde le côté petits artistes émergents, forcément.
Tout à l'heure, on a écouté le titre « B-Summer » de l'artiste Mitty. Parlez-nous un petit peu de cet artiste. D'où est-ce qu'il vient ? Pourquoi est-ce que vous le programmez cette année ?
Alors, Mitty, du coup, on le connaît d'avant. Hein, c'est un copain du collège. Il s'est lancé dans la musique il n'y a pas longtemps avec l'association Outside, qui est déjà passée avec nous sur les deux dernières éditions. Et là, on a vu qu'il se lançait et bah, c'est un moyen de donner de la force à des artistes, forcément, et des amis à nous. Donc,
ce sera sa première scène cette année ?
Il a déjà fait la fête de la musique là, vendredi. Et là, du coup, un vrai festival voilà, pour lui qui arrive.
En parlant de scène, du coup, je voulais aussi qu'on s'intéresse un petit peu au public. Qui vient à votre festival ?
Alors, quand on l'a créé, justement, on était persuadés que ça allait être vraiment très jeune, forcément. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça plaisait à beaucoup plus de gens qu'on pensait. Donc, en fait, c'est très... Il y a de tout. Littéralement, on peut vraiment avoir même des grands-parents qui viennent, mais pas forcément qui restent jusqu'à 2 heures, mais juste passer un moment parce que bah, c'est en campagne, donc il ne se passe pas grand-chose en vérité. Donc c'est vraiment une sortie pour tout le monde. Il y a des enfants aussi qui viennent parce que on avait des activités aussi qu'ils pouvaient faire. Voilà.
Par exemple, comme quel type d'activité ?
Et bah, la première édition, on avait un gueulomaton. Donc je ne sais pas si vous connaissez le concept.
Pas
mais
du tout.
C'est un espèce de photomaton où en gros, il faut crier pour que ça prenne la photo. Donc ça prend des photos assez marrantes, forcément. Et donc ça, les enfants, ils couraient, littéralement. Et on avait aussi des grandes bulles qu'on faisait faire aux enfants. Et on va revoir ça cette année aussi.
L'accessibilité de votre festival, ça passe aussi par des tarifs abordables. Je crois que c'est 10 euros la journée, 17 euros le pass 2 jours. Où en êtes-vous dans la vente de billets aujourd'hui ?
Alors, j'ai pas les chiffres précis. Mais on a beaucoup d'invités aussi à en compter. Donc je pense que pour l'instant, on est à peu près à 400 personnes en tout, mais en comptant des invités. Et en général, les préventes, ça marche plutôt bien, mais c'est aussi beaucoup vraiment les veilles du festival où on a beaucoup plus de places prises parce que les gens ne savent pas forcément où ils vont être et qu'est-ce qu'ils vont faire à la date précise.
On va peut-être revenir aussi aux origines du festival. Qu'aviez-vous en tête lorsque vous vous êtes lancé dans la création du Droogfest ?
Alors en fait, on a eu l'idée dans un bar, et parce que justement on s'ennuyait en fait par chez nous, on avait passé notre lycée ou alors le collège là-bas, il n'y avait absolument rien à faire, et on s'est rendu compte qu'on avait énormément d'amis qui faisaient de la musique en fait, et même qui avaient des compétences pour la musique, que ce soit aussi un ingénieur en son. Du coup on se disait, bah, ce serait trop bien de faire une énorme fête en fait, on voulait juste faire une énorme fête à la base, et c'est parti en festival.
J'adore. Quelles ont été les principales étapes pour arriver à un festival qui aujourd'hui aura lieu sur 2 jours et qui accueille un millier de personnes à peu près ?
Oui. Alors en fait, je dirais que la première édition, c'était forcément une énorme étape parce que ça a confirmé le projet où c'était pas juste dans notre tête, donc c'était possible. Et on est un peu monté en puissance avec la deuxième parce que justement, on s'est beaucoup plus professionnalisé, on va dire, où notre scène était 100 fois meilleure, on a pris beaucoup plus de techniciens. Parce qu'avant, il était tout seul. C'est franchement à ne pas faire. Voilà. Et du coup, on a passé cette étape-là. Et après, on a fait une année de pause. Donc on s'est dit, mais on veut revenir, mais en faisant un truc de fou. Donc on avait deux options. Soit on faisait plusieurs scènes, soit on faisait 2 jours. Et on s'est dit, 2 jours, c'est trop bien.
On revient tout de suite sur les évolutions du festival Droogfest après une courte pause musicale.
Montez à l'arrière, devant je fais la conversation. Le rétro te cachait, pourtant je sens ton envie de fondre. Même pas minuit, un lundi soir, c'est l'horreur. Tu ne parles plus, viens donc dans mes bras. T'as peur de vivre, peur de ressentir. J'y mets du cœur, rentrons, toi et moi. Mais dis-toi, 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 dans la douceur, reprenons notre histoire. Dis-toi, dis-toi, ouais, dis-toi, oui. Aucune douleur et je te trouverai formidable.
Ce n'est pas la première ni la dernière fois qu'on diffuse ce morceau sur les ondes du 94 FM, j'en ai l'impression. Vous écoutiez à l'instant Soft Boy d'Iris 2000 sur Canal B. Et cette artiste, c'est une artiste programmée dans le cadre du festival Droogfest, dont on reçoit les organisatrices aujourd'hui dans 3 en 1 et qu'on va retrouver dans un instant.
On poursuit tout de suite l'interview avec Lise et Elsa qui font partie de l'équipe d'organisation du Droogfest et on en était aux origines du festival. Alors moi je voulais savoir comment vous vous êtes entourée pour la création de ce festival. Elsa ?
Alors déjà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est l'entourage. Forcément, on a tous fait nos études ensemble, on a tous pris des voies différentes. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir beaucoup de contacts, que ce soit les ingénieurs son, que ce soit les artistes du coup, que ce soit aussi les graphistes. Hein, c'est des artistes qu'on a connus à l'école du coup forcément. Et après, bah, on a eu des partenaires, donc ça c'était du démarchage.
Vous êtes allé voir quel partenaire en premier par exemple ?
Alors en premier, bah, alors moi j'étais pas là la première édition.
Lise.
Alors les premiers qu'on a contactés c'était Emmaüs parce qu'il y a un gigantesque Emmaüs à aider et c'est vraiment des partenaires très fidèles pour nous parce qu'ils nous ont énormément aidés et ce Emmaüs là je crois que c'est le plus grand de Bretagne et ils sont très très investis dans tout ce qui est associatif et ils n'hésitent pas vraiment à donner des choses parce qu'ils nous donnent du mobilier carrément pour l'événement. Et ils sont prêts à vous aider pour plein de choses si jamais vous avez un projet.
Je crois qu'on parlait aussi tout à l'heure de la mairie des Bazouges qui fait partie de vos partenaires financiers.
Oui, bah pareil, hein, les contacts, on connaît la mairesse, donc forcément...
Vous la connaissiez personnellement?
Oui.
On la connaissait personnellement, mais par contre, ça y a quand même à repréciser, elle n'a pas le droit du coup de passer pour les subventions. C'est le conseil de mairie qui juge, et du coup, elle n'a pas le droit d'être avec eux.
Et vous vous êtes basé sur un appel à projet de la mairie des Bazouges, ou est-ce que vous avez fait une demande de subvention spontanée? Est-ce qu'il y avait un cadre à cette première demande de subvention?
C'était vraiment spontané parce que, en fait, à la première édition, on ne savait même pas quelle subvention on pouvait avoir. Donc, on s'est juste renseigné au fur et à mesure. On a essayé de rendre les dossiers le plus vite possible, mais il faut toujours le faire avant décembre. Donc, quand on crée une association en novembre, il faut aller vite.
J'aurais aimé avoir plus d'éléments aussi sur le lieu que vous avez choisi. Alors, parlez-nous un petit peu des Bazouges. Parce qu'ici, on est à Rennes, voilà, on ne connaît pas forcément cette commune.
Alors, des Bazouges, bah, c'est un petit bled de paumé, hein, comme on l'appelle. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais par contre, ils ont eu des superbes ruines de châteaux. Donc forcément, c'est un bel endroit. En plus, il y a le coucher de soleil, vue sur les plaines. C'est vraiment très beau. Et du coup, c'est pour ça que c'est inspirant pour faire de l'art, quoi.
Et pour installer une fête, un festival dans ces ruines, ça n'a pas été compliqué? Vous avez dû avoir des autorisations ou c'était OK?
Alors en fait, c'était complètement OK parce que du coup, les ruines, elles sont vraiment... elles entourent seulement. Donc il n'y a rien au sol à l'endroit du festival. Et c'est la place vraiment du village. C'est la place la plus connue, je pense. Et du coup, la mairie est tout à fait OK pour faire des événements. On n'est même pas le seul à être dans ces ruines-là, à faire des choses.
Et j'ai eu Joséphine, une des organisatrices au téléphone la semaine dernière pour préparer cette interview, qui me disait que c'était aussi en fait le spot où vous vous retrouviez quand vous étiez jeune. Donc j'imagine qu'il y a une espèce de charge symbolique à ces ruines.
Oui, c'est ça, on se retrouvait toujours à ces ruines-là pour faire la fête parce qu'on n'avait pas de maison et pas de permis. Donc on allait tous là-bas, donc oui, c'était très symbolique pour nous.
Et à quoi ressemble l'offre culturelle à Aider Bazouges durant l'année?
On a quand même quelques trucs, hein. On a Bonus en festival, donc c'est un festival d'art vivant, et récemment il y a un autre festival qui s'est créé aussi dans les ruines du château. Ils ont fait leur première édition il y a 2 semaines, c'est ça, et le nom c'est
Châteaubriante. Et ils sont très gentils aussi parce que bah, du coup ils se sont un peu inspirés aussi de nous, de ce qu'ils nous ont dit, voilà. Et ils nous ont aussi aidés, on est beaucoup en contact et on les a aidés aussi pour plein de choses. Joséphine, par exemple, elle est allée chez eux et tout, et ils sont très gentils.
Et quels ont été les défis à relever les deux premières éditions?
Alors, bah, la première édition, le plus gros défi, je dirais, c'est qu'en fait, on s'est lancé du coup à 3 avec Joséphine et Nelcy. Et on n'a pas réalisé que c'était pas possible d'être juste 3 dans une association pour organiser un événement, surtout quand on a une vie à côté, en fait. Parce qu'il y avait des études ou alors on avait un travail et c'était compliqué. Moi, je sais que j'ai carrément démissionné de mon travail pour pouvoir faire le Druckfest, la première édition. Et donc, c'était vraiment le truc le plus compliqué au début. Mais du coup, après, on a appris à déléguer et à ouvrir nos portes à l'association. Et du coup, on a eu beaucoup plus de gens et nos amis se sont beaucoup plus investis dans l'association.
J'imagine que vous, ça prend du temps pour organiser un festival. À l'année, il y a combien de personnes en fait dans l'équipe d'organisation du Druckfest?
Alors, on est 8, je crois, précisément, parce que ça peut varier de 1 ou 2 selon les années.
Et alors, pourquoi une pause l'année dernière?
Parce que justement, on était fatigués. Les premières éditions, on n'était que toutes les 3 et on pensait que c'était possible d'enchaîner chaque année. En plus, on a été absolument débiles, mais on a annoncé la 2e édition au micro à la fin parce qu'on était très hypés. Mais on n'y avait même pas réfléchi à l'avance. Et du coup, on a fait une pause parce qu'on n'en pouvait plus, globalement. Et maintenant, du coup, on repart sur plus un format tous les 2 ans plutôt que tous les ans.
Tous les 2 ans. Voilà. Okay. Maintenant, on va parler un petit peu de réduction des risques. Comment faites-vous pour pallier aux risques liés à la consommation d'alcool, d'autres drogues? Et qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir les violences sexistes et sexuelles qui pourraient avoir lieu pendant ou en marge du festival?
Alors justement, cette année, on a un stand du coup de prévention. On en avait également un l'édition d'avant. Mais du coup aussi, maintenant c'est axé VSS, c'est ça? Et du coup, on a forcément tous les kits à avoir pour la prévention, donc ne serait-ce que du sucre ou des petits gâteaux, déjà, c'est obligatoire, surtout avec les chaleurs et la consommation d'alcool, forcément. Et du coup, pour la VSS, c'est Nelcy Notaire, du coup, une des organisatrices, qui a une formation et qui, du coup, va sensibiliser sur le stand et former des gens, des bénévoles, pour qu'ils le fassent.
J'imagine que la tenue aussi d'un camping gratuit lors du festival, ça permet aussi de éventuellement pallier au risque lié à l'alcool.
Bah, c'est ça aussi, oui, parce que vu que c'est sur 2 jours, le camping, parce qu'avant, vu que c'était sur 1 jour, ça pouvait encore aller parce que les gens, globalement, faisaient une soirée et c'était bon. Mais maintenant, sur 2 jours, le camping, forcément.
Merci beaucoup, Lise et Elsa. Pour rappel, le Drukfest aura lieu les 3 et 4 juillet à Aide-Bazouges, à l'affiche des artistes locaux comme Iris 2000 ou Ben Diaz, mais aussi plein d'autres groupes émergents et même un défilé seconde main.
Merci à toi, Léa, pour cette interview et puis merci d'être venue en plateau avec nous. Et oui, c'est bien la saison des festivals qui commence et donc logiquement c'est aussi un peu l'année scolaire qui touche presque à sa fin. Vous avez même peut-être avec vous des stagiaires de seconde ou de troisième ou des stagiaires tout court. C'est notre cas à Canal B comme bien souvent et puis l'une d'entre elles, l'une de nos stagiaires, Alex, nous a proposé de faire un reportage sur l'endroit où elle a découvert la radio avec d'autres camarades, une radio lycéenne rennaise. On l'écoute tout de suite dans 3 en 1.
Ça va probablement vous surprendre, mais pour ce reportage, je me suis rendue au lycée Saint-Vincent à Rennes, où j'ai fait tout mon lycée. Là-bas, un technicien de Radio France, Erwan Ferrezou, également enseignant à l'ESRA, a décidé il y a une dizaine d'années de monter une radio lycéenne, Radio Saint-Vincent. Il y a installé un studio et a invité les lycéens et lycéennes à venir s'essayer devant le micro. Mes camarades de l'époque et moi-même, on n'a pas hésité une seule seconde à sauter sur l'occasion. C'était vraiment unique et incroyable d'avoir cette opportunité. On est donc devenus membres de la radio Saint-Vincent et on y a vécu nos plus grands moments de liberté. Pouvoir s'exprimer, faire de la radio aussi jeune, ça a été une véritable bouffée d'oxygène qui nous a permis de nous ouvrir un peu plus l'esprit, mais aussi de réfléchir plus à notre orientation. Je suis donc allée recueillir quelques témoignages afin de découvrir l'intérêt d'une radio au lycée.
Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 mai. Vous devez avoir hâte de votre grand week-end, mais ne vous inquiétez pas, il arrive enfin ce soir. Pour cette dernière émission de la semaine, je vous propose alors un voyage. Nous allons partir à la découverte d'un pays peu connu de l'Amérique latine, le Pérou.
Je travaille principalement avec les lycéens, mais aussi les étudiants. Hein, aussi. Il y en a quand même beaucoup maintenant parce que ils doivent apprendre et que c'est un endroit où ils peuvent s'exercer, apprendre vraiment les caractéristiques du média et développer leurs compétences au travers d'un système qui fonctionne très bien ici à Saint-Vincent.
Pourquoi avoir créé cette radio justement avec des jeunes ?
Tout simplement puisque je trouvais que la radio était un média intéressant pour les jeunes et que c'était pédagogique aussi de pouvoir apprendre ces métiers-là et de se former au métier du son et de l'animation du journalisme.
C'était Erwan Ferrezou, fondateur de Radio Saint-Vincent. Écoutons à présent ce que les jeunes qui y travaillent ont à dire.
Ça m'a donné pas mal d'idées pour plus tard, notamment au moins je sais que la radio c'est une corde dans mon arc et que je peux très bien le ressortir au moment voulu.
Ça m'a définitivement aidé dans mon orientation.
Alors moi j'avais déjà le projet de devenir journaliste quand je voulais rentrer au lycée etc. et dans mes études supérieures.
C'est assez impressionnant de les voir travailler, surtout les terminales, ils sont vraiment chauds dans le journalisme.
Avec ces bons retours, je me suis demandé ce que pouvait bien penser Manuel Viard, surveillant de l'internat qui suit certains des jeunes depuis le lancement de la radio.
Je le dis sans aucune démagogie, ce n'est en ce qui me concerne que du positif. Ça leur donne un objectif et des jeunes qui ont un objectif sont toujours des jeunes qui vont dans une bonne direction.
En soi, on découvre qu'il y a plusieurs métiers dans la radio, comme technique, on peut faire animation, il y a la régie. Et on découvre aussi comment bien faire des interviews, etc., bien poser des questions et vraiment avoir cette curiosité qui va être hyper importante pour les études supérieures.
La radio, c'est vraiment quelque chose qu'on va aimer et qu'on va aimer faire. On le fait pas du tout par obligation. Et du coup, dans cet état d'esprit, en fait, même si ça nous prend du temps, on aime le faire et on trouve le temps, tout simplement.
En fait, avoir une radio lycéenne, c'est vraiment un plus dans un lycée.
Parce qu'il y en a qui, si je me trompe pas, qui veulent être journaliste après. Et je pense que ouais, c'est un bon dossier solide d'avoir travaillé à la radio.
Les gens qui viennent, ils apprennent des compétences, plein de compétences vraiment, de la technique, de l'animation, de savoir bien présenter un sujet, faire une problématique ou autre. Et je pense que ça peut être super intéressant pour les gens qui veulent s'améliorer à l'oral. On a même fait le salon d'étudiants, on a fait nos portes ouvertes aussi. Donc moi, je pense que c'est même un projet de vie, un peu un projet lycéen.
C'est vraiment quelque chose à part, c'est quelque chose... On peut pas le comparer à autre chose parce que c'est bien, bien spécifique.
Cette expérience fut formatrice, voire décisive dans la vie de ces lycéens et lycéennes. La radio les a formés, leur a appris à s'exprimer et à vaincre leur timidité. Finalement, RSV, c'est Canal B, mais au lycée et dans le privé.
Merci à Alex pour la réalisation de ce reportage. Et puis merci à tous et toutes autour du plateau 3 en 1. C'est fini pour aujourd'hui. Aujourd'hui, l'interview était réalisée par Léa et à la réalisation, c'était Brice. Mais merci aussi à nos invités qui étaient avec nous en plateau. C'était un plaisir de vous avoir.
Merci. Merci, au revoir.
J'espère que cette émission vous a plu. Si vous voulez la réécouter, tous les podcasts de 3 en 1 sont à retrouver sur notre site canalb.fr et à réécouter les lendemains en rediffusion sur le 94 FM à 8h15. Mercredi, dans la prochaine édition de 3 en 1, vous retrouverez une chercheuse et une ingénieure qui viennent nous parler de l'exposition « Qu'est-ce qu'il y a ?» à voir actuellement au musée des Transmissions. Une interview passionnante que je vous conseille de ne pas rater. Ce sera mercredi entre 12h15 et 12h45 sur le 94 FM. Et en attendant, aujourd'hui à 13h, dans quelques minutes, donc vous retrouverez la rediffusion de l'émission de création sonore de la radio Gymnastique Sonore. Et puis il y aura l'émission Land of Confusion, émission de musiques électroniques qui accompagnera peut-être parfaitement vos volets fermés de cet après-midi. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis bonne journée à vous.